Et notre invité ce matin dans le 8-30, Antoine Fatiga, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes responsable CGT dans la branche des saisonniers. Hier, s'est tenue une assemblée, notamment du côté de Chamonix, la Confédération qui réunissait ses délégués de tous les massifs. Tout d'abord, après une année blanche où les remontées mécaniques n'ont pas pu ouvrir, quel est votre bilan ?
Alors, pour nous, le bilan est bien sûr positif, hein, mais à la fois, il est positif en termes d'activité, mais il est un peu, nous sommes très chagrinés de ce qui s'est passé, puisque, je rappelle, la montagne est l'activité économique qui a été la plus aidée, hein, il y a eu 7,2 milliards d'euros qui ont été versés pour un chiffre d'affaires de 8 milliards, donc vous voyez, c'est énorme. Et cet argent qui a été versé par l'État n'a pas servi à maintenir les saisonniers ni à les faire vivre et travailler au pays. D'ailleurs, les chiffres du ministère ne divergent pas des nôtres. Hein. L'année dernière, il y a à peine 25% des saisonniers qui ont été indemnisés. Le ministère dit 30%. Donc, vous voyez, pour une fois, nous sommes quasiment raccord. Je rappelle quand même que pour beaucoup d'entre eux, de ces saisonniers-là qui n'ont pas été indemnisés, mais il a fallu en fait qu'ils trouvent un autre boulot. C'est ce qui explique d'ailleurs en partie cette année la difficulté qu'on a eue dans les entreprises liées à la saison de recrutement. Et ces difficultés de recrutement, plus le turnover, fait que, je dirais, c'était l'objet de notre formation sur 2 jours à Chambéry, fait qu'aujourd'hui, on a une augmentation des accidents du travail.
Alors, on va revenir sur ce point, mais je voudrais tout d'abord rebondir sur ce que vous disiez. Hein. Il y a peu de saisonniers qui ont été indemnisés. La faute à quoi ? La faute à qui ?
Ah ben, en fait, la faute, elle est toute simple, elle est au gouvernement. C'est-à-dire que si on avait conditionné les aides, on le disait hier, mais c'est terrible. Quand vous touchez le RSA, aujourd'hui, tout le monde voudrait que vous ayez 25 000 papiers, que vous ayez des activités, enfin des tas de choses, quoi. C'est-à-dire que quand on est pauvre, on est précaire, on vous demande des tas de justificatifs. Par contre, quand on verse 7,2 milliards d'euros à une activité qui en fait 8, quand il y a des entreprises qui, l'année dernière, ont fait de l'excédent alors qu'elles n'ont même pas tourné, on ne demande pas de justificatif. On leur a donné plein pot l'argent. Nous, ce que nous avions dit l'année dernière, parce que nous avons rencontré la ministre et j'y étais à plusieurs reprises, c'est qu'il fallait conditionner les aides au fait que ces entreprises-là embauchent les saisonniers dans le volume habituel. Ce qui aurait évité à la fois la pénurie cette année, ce qui aurait évité aussi que beaucoup de gens de la montagne aillent trouver un emploi dans les vallées. Et de fait, ça nous aurait permis de mieux vivre et travailler au pays. Je rajouterais quand même une autre chose hein, par rapport à cette situation-là, c'est que le gouvernement a pris 2 mesures qui concernent beaucoup les précaires en termes d'assurance chômage. Une première, modifiant le nombre de mois qu'il faut pour pouvoir être indemnisé. On est passé de 4 à 6 mois. Donc, vous voyez, pour un saisonnier, travailler 6 mois, il ne le fait jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le calcul de l'indemnisation se fait sur la durée de la période de calcul, c'est-à-dire sur les 24 mois, même si vous avez travaillé que 6 mois. Donc, pour certains, ça leur baisse, de manière drastique, leur indemnisation.
Alors, vous le disiez précédemment, en effet, il y a eu un renouvellement inédit des saisonniers. Ce qui veut dire quoi ? Une plus faible formation ? Une main-d'œuvre trop jeune ?
Oui. Bien sûr, il y a eu ça, il y a eu aussi le fait que pour une première fois, dans les entreprises de remontée mécanique, service des pistes, dont les délégués étaient majoritairement issus, il y a eu des difficultés de recrutement. Vous voyez, alors que normalement, c'est une. C'est
normalement, les postes sont pourvus.
Ah oui, largement. Il y a même plus de demandes que de possibilités. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le métier n'est pas du tout attractif. Donc, je vous ai expliqué précédemment pourquoi. Et puis, il y a une troisième raison qui aujourd'hui, c'est que ces métiers-là sont très mal rémunérés ou pas rémunérés à leur juste valeur. Quand vous êtes en montagne, le coût de la vie est beaucoup plus cher. Pour se loger, c'est déjà plus difficile. Donc, tout ça fait qu'il y a eu des revalorisations qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il avait fallu, ce qui a d'ailleurs donné un certain nombre de soubresauts dans les entreprises de remontée mécanique et d'action pour arriver à quelque chose de correct. Et même avec ça, nous ne sommes pas arrivés.
Pas suffisamment rémunérés, pas tous les saisonniers, hein, parce que si je lis bien le Dauphiné Libéré de ce matin, la branche des remontées mécaniques et pistes, mieux lotie, une hausse des salaires de 3,2% en début de saison.
Oui, tout à fait. Et la branche des remontées mécaniques est mieux lotie que les autres. Hein. Nous avons signé un accord, la CGT en est signataire, de 3,2% en début de saison, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut rattraper ce qui a été perdu hein, les deux années, parce que je rappelle quand même que quand vous êtes à l'activité partielle, quand vous y êtes, hein, c'est quand même 35% de vos revenus en moins. Donc, cette partie-là n'a pas été gagnée ni cette année et le sera encore plus difficilement les années suivantes. C'est pour ça que nous réclamons, bien sûr, des augmentations de salaire, mais l'objet aussi de notre formation, c'était de dire, avec tout ce turnover, avec le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux qui arrivent, on a un phénomène d'accidentologie qui est assez élevé et donc avec beaucoup d'accidents du travail. Donc, on voit bien que à la fois, on est mal rémunéré, et puis à la fois, on perd, entre guillemets, hein, mais si, il y a eu quand même des accidents mortels cette année, on perd quand même sa vie à la gagner, ce qui est quand même pas bien normal quand on va au boulot.
Oui, il y a eu un accident mortel hein, du côté de la Clusaz, un chef d'exploitation qui est mort écrasé par sa dameuse. Plus d'accidentologie, donc du côté des salariés.
Oui, tout à fait. Donc, plus d'accidentologie. Et déjà la branche des remontées mécaniques est déjà une branche qui a déjà un taux d'accident très élevé, beaucoup plus élevé que le BTP ou le transport routier de marchandises, pour prendre ces exemples-là, pour que chacun voie à peu près de quoi on parle. Mais en même temps, il y a eu 15 à 20% de taux d'accident cette année, alors que d'habitude, on tourne autour des 10%. Vous voyez, donc, il y a un phénomène d'accidentologie beaucoup plus important. Et quand vous faites, par exemple, un genou, quand vous tombez, comme c'est arrivé dans une entreprise d'un échafaudage, eh bien, non seulement vous mettez en péril votre emploi d'hiver, mais vous mettez aussi en péril votre emploi d'été, où l'employeur n'a rien à voir avec ce que vous avez fait l'hiver. Et donc, de fait, vous mettez en péril la totalité de votre rémunération sur l'année. Et ça, c'est quand même des choses qui sont assez catastrophiques du point de vue du salarié.
Alors, donc, vous le disiez, nous, on demande une revalorisation salariale. Est-ce que ça suffira pour combler ce manque de main-d'œuvre ? Est-ce qu'on a travaillé en sous-effectif cette année ?
Oui, bien sûr, oui. On a travaillé en sous-effectif, et d'ailleurs, moi, je vois, moi, je rencontre beaucoup d'employeurs qui me disent que, pour eux, c'était même une catastrophe, parce que, alors, ils ont fait beaucoup d'excédents financiers, mais en même temps, il faut qu'on retrouve les emplois d'avant. Et une des demandes fortes que nous avons fait au niveau de la branche remontée mécanique et salariés épices, c'est qu'on revienne aux effectifs qu'on avait dans les années 2019. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas bien travailler, et bien travailler, c'est-à-dire y compris bien travailler pour le client qu'on accueille, s'il n'y a pas le personnel qui est là, s'il n'y a pas le nombre de pisteurs pour damer les pistes, s'il n'y a pas le nombre de pisteurs pour surveiller. Et on voit bien qu'y compris pour la clientèle cette année, ça n'a pas été une année simple puisqu'il y a eu beaucoup d'accidents et là, des accidents aussi mortels.
Combien à peu près d'effectifs il manquerait, j'allais dire en France, hein, dans les stations françaises ?
On estime qu'aujourd'hui, il doit manquer entre 10 et 15% d'effectifs.
10 et 15% d'effectifs.
Voilà. Donc, c'est pour ça que nous faisons la demande, y compris au niveau du gouvernement, de faire en sorte qu'elles reviennent sur les mesures qui ont été prises par rapport à l'assurance chômage. On ne peut pas aujourd'hui précariser encore plus les précaires. Ce n'est pas de leur faute s'il n'y a pas de neige l'été et s'il n'y a pas de neige pendant l'intersaison. Je l'ai redit, mais Pôle emploi le dit lui-même. Quand vous avez 10 emplois l'hiver, vous en avez un seul l'été. Comment voulez-vous ? Ce n'est pas de votre faute s'il n'y a pas de boulot.
Oui, mais là, ça pose encore question de l'exercice des stations de ski.
Oui, alors ça, c'est sûr que ça, c'est un volet aussi. Et nous avons peur, d'ailleurs, cette année, hein, vous avez raison, qu'on ne prenne pas du tout en compte les évolutions liées au réchauffement climatique et aux attentes de clientèle et tout, parce que pour beaucoup d'employeurs, ils me disent « mais cette année, ça a tellement juté ». On a tellement fait des bénéfices qu'on va repartir plein pot l'année prochaine. On va peut-être repeindre une dameuse en verre, mettre deux panneaux photovoltaïques, mettre une dameuse à hydrogène et tout sera comme avant. Non, il faut absolument tenir compte des évolutions du climat, de faire en sorte qu'on arrive vers un tourisme quatre saisons, vers d'autres activités qu'uniquement le ski. Et ça demande un peu des remises en cause. C'est pour ça que nous proposons qu'il y ait des parlements de la montagne qui se mettent en place dans chaque massif pour qu'on réfléchisse un peu avec la population locale, puisque le tourisme n'a d'avenir que s'il permet aux populations locales de vivre et travailler au pays. Ce n'est pas juste que des gens viennent puiser nos richesses et puis se tirent après derrière, comme le font les grands groupes.
Mais ça existe, ça, déjà, Jean Castex, le Premier ministre, qui était dans les Hautes-Alpes il y a deux semaines, hein, si je ne me trompe pas, disait qu'en effet, il fallait aller vers ce tourisme quatre saisons. Oui. La région Provence Alpes-Côte d'Azur.
Jean Castex, vous savez, c'est le gouvernement, il fait plein de promesses. Hein, donc,
en tout cas, il y a la région aussi, il y a la région Provence Alpes-Côte d'Azur qui soutient les stations de ski, si en effet, il y a bien une promesse de tourisme quatre saisons.
Voilà. Mais vous avez raison, ce sont vraiment des promesses. Aujourd'hui, pour mettre en œuvre ces promesses et éviter de, j'irais, de toujours subventionner que des canons à neige, hein, ou quand on parle, par exemple, Jean Castex, il parle du logement. Le logement, pour lui, c'est les hôteliers et des chambres d'hôteliers. C'est pas ça, le logement, pour quelqu'un qui veut vivre et travailler au pays. Quelqu'un qui veut vivre et travailler au pays, par exemple. Nous, on rencontre beaucoup de difficultés pour des gens qui sont à l'année sur place. C'est-à-dire que le coût de l'immobilier est tellement cher qu'ils n'arrivent plus à se loger. Ben, nous demandons tout simplement à ce que ces salariés-là qui ont des contrats saisonniers puissent bénéficier, comme les autres, du CCAS, du droit au logement, enfin d'un certain nombre de droits aujourd'hui auxquels ils sont exclus quand on est précaire. Et en même temps, sur l'histoire de l'avenir de la montagne. L'avenir de la montagne, il ne peut pas se décider à Paris, il ne peut pas se décider non plus au siège des régions. Il doit se décider au niveau local. C'est pour ça que, aussi bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous disons arrêtez de subventionner les canons à neige, mettez de l'argent plutôt pour faire de l'ingénierie locale, pour que les gens se rencontrent et que les décisions soient prises. J'insiste là-dessus, que les décisions soient prises en tenant compte de ce que veulent les gens du pays, c'est-à-dire que les habitants sur place. Et il faudrait les mettre dans un genre de parlement de la montagne, comme on l'a fait au niveau d'un comité de massif, par exemple, mais qui soit beaucoup plus local. Et de ce point de vue-là, qu'on puisse avoir les bonnes décisions pour les bonnes actions.
C'est à la population locale de dessiner l'avenir des stations.
Oui, tout à fait, parce que sinon, on arrive vite à des conflits d'usage. D'ailleurs, cet hiver, c'était un peu le cas. Quand vous avez 80% de la population qui va sur 20% des territoires, vous avez des endroits où il y a des gens qui disent « on en a marre des touristes ». Et en fait, ce n'est pas ça le bon truc. Le bon truc, c'est de dire « nous, on veut accueillir des gens, mais on veut les accueillir dans de bonnes conditions ». Avec des transports collectifs, parce qu'aujourd'hui, ce qui mobilise beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui en fait consommer beaucoup, c'est le fait de venir en station. Mmh. C'est pas tant à la station, c'est le fait de venir. Donc, comment on développe le train? Comment on développe les transports collectifs? Comment on met des hubs en place pour...
Mais là, c'est pareil, je vous arrête, parce que c'est aussi le plan Avenir Montagne qui est déployé par le gouvernement, avec c'est notamment 10 derniers kilomètres en station qui sont 10 fois plus polluants qu'une circulation en agglomération. Il y a quand même des actions mises en place et de l'argent mis sur la table.
Alors, vous avez raison, il y a de la communication qui est mise en place. Mais par exemple, pour cette histoire de derniers kilomètres, je dirais aujourd'hui, si je prends la région, mais c'est pareil pour la région PACA, ils suppriment tous les trains des vallées. Avant, je dirais, si je prends une vallée que je connais bien, la vallée de la Tarentaise, il y avait 82 trains dans les journées de fort trafic. Aujourd'hui, on est à moins de 50. Donc, vous voyez bien que, je veux dire, de faire des promesses, c'est bien, mais il faudrait développer le ferroviaire. Si le plan Avenir Montagne le permet, pourquoi pas? Mais moi, j'ai écouté très justement Joël Giraud ou Castex quand ils sont venus en Savoie. J'ai pas beaucoup entendu de propositions concrètes qui vont dans ce sens-là.
Merci beaucoup, Antoine Fatiga, d'avoir été avec nous sur Alpe. Je rappelle donc que vous êtes en charge des saisonniers au sein de la CGT. Merci beaucoup.
Merci.